C'est vraiment une joie aussi en particulier d'avoir ce matin Pierre-Nicolas et sa femme Colline qui sont là, qui viennent exprès de Paris pour nous, pour ce week-end où ils ont pu passer un bon temps hier avec tout le groupe Louange. Pierre-Nicolas qui a vraiment ce cœur d'adoration, ce cœur d'adorateur, cet amour pour Dieu qui est contagieux, vous allez le voir. On se connaît depuis quand même bien des années, on a eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de l'inviter dans différents cadres, que ce soit au niveau de la rencontre de jeunesse ou ici à Neuchâtel, et c'est vraiment une grande joie. Ils ont 4 enfants ensemble, ils habitent tout près de Paris, et il est dans les leaders de louange à l'église Emelka où vraiment des choses se passent. On est vraiment tellement content de vous avoir pour, et de t'avoir pour la louange et pour partager ton cœur ce matin.
En vrai, je me sens trop haut. Je peux me mettre en bas, c'est possible ou pas? Ah ouais. C'est vraiment une joie d'être avec vous. Neuchâtel, c'est déjà la Suisse, c'est un lieu qui m'est très cher. Mes parents venaient faire une retraite spirituelle quand j'avais déjà quelques mois. Ils venaient Yverdon-les-Bains, Montrija, ça vous dit quelque chose? Ouais, voilà. Et puis j'ai grandi au sein des Fabricants de Joie, ministère de jeunesse en mission. Donc voilà, la Suisse est très il y a beaucoup d'acteurs des FJ au sein des en Suisse en fait. Donc voilà, et puis forcément c'est un beau pays. Il y a de belles montagnes encore là. C'était rigolo, on est arrivé en train hier, et pourtant, je viens régulièrement, mais c'est à chaque fois le choc de voir ces belles montagnes, en plus enneigées en novembre, c'était surprenant. À Paris, il y a encore des feuilles sur les arbres, donc c'est très étrange de voir la neige sur des feuilles encore jaunes. Bon, bref, je vous passe les détails. Mais voilà, le Parisien émerveillé par la beauté de la création. Mais c'est, voilà, c'est quelle joie, quel bonheur. Et comme je disais tout à l'heure, psaume 133, quel bonheur pour des frères, des sœurs de demeurer ensemble. Je fais partie d'une autre communauté, mais on est membres du même corps. Une partie différente du corps, mais membres les uns des autres. Et voilà, c'est juste tout naturel, c'est juste tout. C'est juste trop bien d'être avec vous et de vivre ce temps dans la présence de Dieu ensemble. Et c'est un temps où on se tourne vers lui, on vient lui rendre un culte. J'aime bien nous rappeler encore une fois que ce n'est pas juste une réunion, ce n'est pas un dimanche de plus, mais c'est un jour non seulement que Dieu a fait, il t'a donné la vie, il t'a donné le souffle de vie, tu es là ce matin, il n'y a pas de hasard. Et lorsque le peuple de Dieu se rassemble, proclame qui il est, regarde à lui, alors non seulement l'atmosphère change, mais nos vies changent, mais ce monde change aussi. Amen. Ce qu'on vit dans sa présence, on veut qu'il y ait un impact dans notre quotidien et dans cette ville, dans cette région. Ce n'est pas juste pour nous, pour notre bien-être, n'est-ce pas? Amen. Oui, ça commence par nous, mais nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, nous voulons refléter le Seigneur de gloire dans tous les aspects de nos vies. Amen. Yes. En vrai, je vais être hyper honnête avec vous, je suis très honoré vraiment d'avoir ce micro et de parler devant vous après. C'est pas l'endroit où je suis le plus à l'aise. J'aime bien me cacher derrière une guitare. Voilà. Mais je sais que vous êtes sur une. Vous avez regardé à cette notion de cœur depuis quelques dimanches, n'est-ce pas? Depuis quelques week-ends. Et du coup, David me disait est-ce que tu peux parler du cœur d'adorateur? J'étais là. Ouais, moi, dès qu'on parle un peu de louange, c'est cool, je suis là. Du coup, j'ai regardé un petit peu, je me suis posé la question mais qu'est-ce que. Tout bêtement, j'ai été regarder dans la Bible combien de fois on avait le mot « cœur » et quel était le mot utilisé. Il y a près de 600 fois le mot « cœur ». Un des versets clés peut-être qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est « Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur ». C'est de l'abondance du « que la bouche parle ». Il y a plusieurs versets clés comme ça qui me sont venus à l'esprit. Et on vit dans un monde où en fait... En premier, on nous demande quelles sont tes compétences. Qu'est-ce que tu sais faire? Et puis de ces compétences, on va te dire, on va te communiquer quelques règles qui vont t'amener à une certaine conduite. Et parce que tu as une certaine conduite, elle est ajustée avec ton caractère. Et enfin, un caractère nous amène en fait au cœur. Et en fait, vous allez voir où je veux en venir. Ça, c'est la notion de ce monde. On commence toujours par les compétences. Mais regardez, le Seigneur, il nous parle toujours du cœur dans la Genèse. Genèse 6, verset 5, c'est assez terrible parce qu'il nous est dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » Le cœur de l'homme, le cœur de Dieu. Il y a déjà la relation entre Dieu et l'homme, l'homme et Dieu. Lorsque son cœur est attristé, notre cœur est attristé. Lorsque notre cœur est attristé, son cœur est attristé. Le cœur de Dieu, notre cœur, c'est au centre même. Le cœur, c'est assez marrant, parce que, enfin marrant, c'est un organe vital de notre corps. Je ne sais pas si vous savez, je ne sais pas s'il y en a qui font des études de médecine, dans le cœur, en une journée, vous avez près de 8000 litres de sang qui passent dans le cœur. 8000 litres de sang en une journée qui traversent notre cœur. Ce n'est pas qu'on a 8000 litres de sang dans notre corps, hein, mais en fait, puisque le cœur vient oxygéner le sang et tous les organes, en fait, et permet la circulation du sang. Mais c'est un organe qu'on ne voit pas. Il n'est pas visible. Dieu nous a créés, il nous a donné un cœur qui est vital pour chacun. De ce cœur découle un caractère. De ce caractère découle une conduite. De cette conduite va découler un environnement dans lequel on va communiquer, on va interagir avec les autres. Et puis, parce qu'on interagit avec les autres, on va mettre nos compétences au service des autres. Vous voyez où je veux en venir ? Comment est-ce que ce monde a juste renversé ce que Dieu avait prévu, en fait, à la base ? Notre monde est tellement basé sur non seulement le faire, sur nos compétences, alors que Dieu cherche en premier nos cœurs. 1 Samuel nous rappelle, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde. Ah. Ce cœur qui n'est pas visible, ce cœur où on peut des fois cacher, où on peut faire mine que tout va bien. Mais déjà dans le temps de louange, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, je sais que le Saint-Esprit est déjà en train d'œuvrer dans les cœurs de plusieurs d'entre nous là ce matin. Le grand chirurgien est en train d'œuvrer dans nos cœurs. Et lorsque le peuple de Dieu se rassemble, déclare qui il est, sa présence descend, elle est là, de façon encore plus tangible, pour œuvrer dans nos cœurs. Il y a un homme dont on connaît l'histoire dans la Bible, si je vous parle du roi David, vous savez ce qu'il est dit à son sujet dans 1 Samuel. Mais maintenant ton royaume ne durera pas, l'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a établi chef de son peuple, parce que vous n'avez pas observé ce que l'Éternel vous avait commandé. Donc c'était tout un contexte, vous vous souvenez de Saül, qui était roi, mais qui a fait ce qu'il a fait, mais David avait été loin, et il a pris, en fait, il est devenu roi, officiellement, il avait été loin auparavant par Samuel, vous vous souvenez, devant ses frères, d'où la fameuse phrase, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et David, c'est intéressant parce que c'est vraiment quelqu'un, en fait, moi en tout cas pendant des années, je le voyais comme le grand héros, comme celui, il fait partie de ces héros de la foi, il fait partie de ceux qui ont avancé dans une destinée alors qu'il n'était pas du tout prévu pour ça, il n'avait pas physiquement, potentiellement l'apparence pour, c'était le berger dans l'ombre et qui est devenu peut-être roi malgré lui quelque part. Mais il nous est dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et j'aime me rappeler et de voir combien de fois, même quand il s'est trompé, même lorsqu'il a désobéi à Dieu, et pas qu'une seule fois, hein. Souvent on va direct sur Bathsheba, le gros cliché, bam. Mais il n'y a pas eu que ce moment-là. Et je rappelais avec l'équipe de louange hier, on se rappelait de la première motivation de David lorsqu'il est devenu roi, c'est de ramener la présence de Dieu au sein de son peuple. Et vous vous souvenez, qu'est-ce qui marque la présence de Dieu ? L'Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance, elle a été mise de côté. Alors qu'il y avait quand même le tabernacle de Moïse qui exerçait encore, mais l'Arche de l'Alliance n'était plus là. Elle était dans une maison abandonnée. Et David s'est dit, ok, maintenant que je suis roi, je veux ramener la présence de Dieu. Trop bonne idée, trop génial. Et donc, hop, qu'est-ce qu'il fait ? Il ramène, il prend des chars, il prend un char, il pose l'Arche de l'Alliance et il commence à aller vers Jérusalem. Et vous vous souvenez de ce qui se passe à ce moment-là ? Un fameux Ouza qui vient, un Lévite, donc il y avait des règles. Dans Deutéronome, il nous est dit qu'ils n'avaient absolument pas le droit de toucher l'Arche de l'Alliance. Donc le Lévite, à l'époque, encore une fois, c'est quelqu'un qui savait toutes ces lois, qui connaissait ces choses-là. Et l'Arche de l'Alliance semblait tomber. Et Ouza a voulu la rattraper. Et plus de Ouza. Est-ce que vous pouvez imaginer avec moi David, qui est enfin roi, il y a tout le peuple qui est là, il y a cette volonté de la présence de Dieu, de mettre Dieu en premier. Et là, c'est un gros fail, un gros... Imaginez la une des journaux, si on était à notre époque, d'un nouveau président qui vient prendre qui a son rôle, qui est président. Première chose qu'il fait, alors que tout le monde est là, tout le peuple est là. Voilà, vous imaginez la une. Ah, scandale, honteux. Et voilà comment David a commencé son royaume. C'est chaud, hein ? C'est chaud. Mais vous savez quoi ? Alors qu'il n'a pas mis Dieu de côté. C'est là où on voit cette notion du cœur et cette notion où il a été proche du cœur de Dieu. Il nous est dit un peu plus loin dans les versets, alors qu'on lit cette histoire de Ouza, qu'en fait l'Éternel a continué de lui parler. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment, moi qui m'a toujours assez interpellé, j'aimais bien regarder, lire la Bible en bande dessinée quand j'étais gamin. Et il y avait, sur ce passage du roi David, c'est le moment où, donc, je vous resitue, hein, il y a eu Ouza, donc le fail, mais il nous est dit que l'Éternel était toujours avec David. Et il lui a parlé de manière juste incroyable. C'est le moment où, en fait, je crois que c'était les Philistins qui venaient l'attaquer, ou je ne sais plus quel pays. Il y a un peuple qui vient venir attaquer Israël. Et le Seigneur va lui dire, allez vous cacher dans la forêt, et quand vous entendrez le souffle, le vent dans les cimes des arbres, vous irez attaquer. Et ça me parle parce que combien de fois on se sent peut-être vivre un gros fail, on vit un échec, où on vit, on se casse les dents, où on est peut-être plus bas que terre. Et puis on a plutôt tendance humainement à s'éloigner et dire, ah Seigneur, j'ai péché ou j'ai pas été comme tu as prévu que je suis brisé, je suis meurtri, j'ai raté quelque chose. Et on veut s'éloigner. Humainement, on s'éloigne. Mais regardez avec quelle finesse l'Éternel est encore avec David. Et il va lui dire d'aller se cacher et d'attendre. Moi, je trouve qu'il y a une intimité, une proximité qui est encore là. Alors que David vient de faire quelque chose et de vivre quelque chose qui n'était pas ouf, quoi. Vous me suivez ? David, un homme selon le cœur de Dieu. Et derrière, donc, il a continué à quand même garder, à gagner des guerres, à rester dans la présence de Dieu. Et là, il a été inspiré une deuxième fois, où cette fois, ce n'était pas un char qui portait l'Arche de l'Alliance, mais c'était des sacrificateurs, des hommes dont c'était la tâche, qui ont porté la présence de Dieu et qui l'ont amené dans le temple, sur le mont Sion, pas dans le temple, sur le mont Sion, à Jérusalem, la cité de David. Et puis c'est là où il a eu à cœur de mettre en place des musiciens, des chanteurs qui n'étaient pas là juste pour chanter et servir le peuple de Dieu, mais pour servir la présence de Dieu. Et de là sont nés les psaumes, une grande partie des psaumes, les psaumes d'Asaph, qui ont été même chantés par Jésus plus tard. Incroyable. David, un homme selon le cœur de Dieu, même dans les moments les plus compliqués. Où en est ton cœur ? Où est ton cœur aujourd'hui ? Est-ce que tu es comme Adam et Ève qui, quand ils ont péché, se sont cachés, se sont enfuis, se sont cachés même physiquement ? Mais je veux te rappeler une chose, pour continuer sur cette image de Adam et Ève. C'est Dieu qui a ouvert la bouche en premier et qui a dit « Adam, où es-tu ?» Dieu est toujours à l'initiative. Et tout à l'heure, on a chanté, on a déclaré « La crainte se tait dans le nom de Jésus. » Et moi, j'ai envie de dire « La honte se tait dans le nom de Jésus. » Je veux nous rappeler que le voile a été déchiré. Tu as un libre accès auprès du Père. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu ressens, il y a cette réalité de l'œuvre puissante du sang de Jésus qui a coulé pour tes péchés. Alors si tu sais qu'il y a des choses, si tu vis peut-être des choses compliquées dans ta vie, si tu sais peut-être qu'il y a des choses que tu dois peut-être mettre en règle, je suis désolé, je ne suis peut-être pas très agréable là tout de suite. Rappelle-toi de la puissance du sang de Jésus. Ne laisse pas le mensonge de l'ennemi penser que tu es éloigné de Dieu. Rappelons-nous de David, un homme selon son cœur, que nos cœurs lui soient entièrement dévoués, que nos vies lui soient entièrement dévouées. Amen. Vous avez un nom qui s'appelle Église Passion. Quel beau nom ! Ah ! Soyez une Église passionnée, passionnée de sa présence, passionnée de son cœur, pour vos vies, pour nos vies, mais aussi pour ceux qui sont à l'extérieur. Pour continuer sur David, je partageais ça avec l'équipe aussi hier. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est on met beaucoup d'énergie et beaucoup de budget dans des instruments et dans une sono, etc. En vrai, on n'en aurait peut-être pas besoin, en fait. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui vous disent pourquoi, à quoi ça sert, etc. Je veux juste nous rappeler qu'on est en train de vivre un temps bien particulier. Dans Amos 9, il y a un passage qui est repris ensuite dans Acte 15. Et il nous est dit que dans les derniers temps, je relèverai la tente de David. Qu'est-ce que ça veut dire, la tente de David ? C'est quoi, en fait ? Pourquoi ? En fait, aujourd'hui, il n'y a plus cette tente de David. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, la deuxième fois quand il est venu, qu'il a mis l'arche de l'Alliance au centre de son royaume, qu'il a établi les chantres et les musiciens, et que de là sont nés une grande majorité des psaumes. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus cela. Mais, regardez, depuis 60-70 ans, il y a une expression de l'Église, une expression de louange qui est nouvelle, qui est rafraîchie. Et oui, du coup, les instruments sont revenus au fur et à mesure. Pourquoi pendant des siècles, on a eu zéro instrument, ou quasiment pas ? Pourquoi pendant des siècles, c'était juste des instruments de musique classique ou des orgues ? Et ça a été comme ça pendant des années et des années, des siècles et des siècles. Et là, tout d'un coup, depuis 50, 60, 70 ans, on se dit « Ah, mais c'est un effet de mode, l'Église fait comme le monde ! » Non, les amis, tellement pas. Dieu est à l'œuvre. Il est en train de faire quelque chose. Alors oui, on ne veut pas juste être à la mode, oui, on ne veut pas juste être à la page, mais je crois qu'il y a quelque chose qui doit être stimulé dans notre expression de louange. Et ce n'est pas une histoire de génération. Ce n'est pas la musique des jeunes et la musique des... C'est la musique du peuple de Dieu. C'est le son du peuple de Dieu qui élève le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce son, il rassemble toutes les générations. Il rassemble des hommes, des femmes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, sous un seul nom, le nom de Jésus. Des cœurs passionnés qui expriment leur louange et leur adoration. Mais alors forcément, ce n'est pas très simple, parce qu'on est dans un monde où il y a une guerre d'adoration. Il y en a un qui s'appelle Lucifer. Vous savez ce que ça veut dire, Lucifer ? L'astre brillant. C'était un des chérubins en charge de la louange qui est dans les cieux. Les cieux, c'est ça que je voulais démarrer en lisant le psaume 19. D'ailleurs, on va le lire. Faut que je vous... Non. Psaume 19. C'est horrible, je suis parti sans ma Bible physique, je suis tout perdu. C'est là où vous voyez que je suis un petit vieux, quoi. Psaume 19. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait. Chaque jour raconte cela au jour suivant. Chaque nuit le fait connaître à la nuit qui la suit. Ce n'est pas un discours, il n'y a pas de parole, aucun son ne se fait entendre. Mais leur message parcourt toute la terre et il se répand jusqu'au bout du monde. Là-haut, Dieu a planté une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci est comme un jeune marié qui sort de sa maison. Il s'élance comme un champion heureux de courir sur la route. Il se lève à un bout du ciel, il termine sa course à l'autre bout et rien n'échappe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite. Elle redonne vie. Les ordres du Seigneur sont clairs, ils donnent la sagesse aux ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes, elles rendent le cœur joyeux. Les commandements du Seigneur donnent la lumière. Ils permettent de voir clair. Le respect du Seigneur est une chose très belle, elle reste sans cesse valable. Et les décisions du Seigneur sont vraies, elles sont toujours justes, elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or pur. Elles sont plus délicieuses que le miel le plus doux. Aussi, tes décisions m'avertissent, moi, ton serviteur. Si je les garde, j'aurai une belle récompense. Qui peut connaître ses erreurs ? Pardonne-moi les fautes, même que je ne vois pas. Éloigne-moi des orgueilleux qui n'aient aucune influence sur moi. Ainsi je serai sans défaut, on ne pourra pas m'accuser de fautes graves. Et le dernier verset, je vais le lire dans cette version, mais je le relirai dans une autre. Qu'elle te fasse plaisir, les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Seigneur, mon solide rocher, mon défenseur. On connaît plus ce verset sur « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur au Seigneur. » Depuis tout à l'heure que je parle, il y a plein de points que j'ai un peu énoncés qui sont là dans ce psaume 19. Il y a un passage qui me revient alors que j'étais en train de lire ce psaume. C'est le prophète Ésaïe où il nous est dit « Ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Les amis, on arrive dans une saison où il se passe des choses juste incroyables dans nos églises. Il y a un mouvement de Dieu dans nos églises. Vous le vivez, vous le voyez. Dieu est à l'œuvre au milieu de vous. Soyons un peuple qui est connecté à son cœur, où nos cœurs sont connectés à son cœur. Nous ne sommes pas juste en train d'ouvrir nos bouches, de jouer à l'église, de rentrer dans les codes pour faire bien. Mais soyons des hommes, des femmes dont le cœur est connecté au cœur de Dieu. Alors comment est-ce qu'on fait pour être connecté au cœur de Dieu ? Je veux juste nous rappeler que c'est lui qui donne la vie. Et encore une fois, comme je le disais, c'est toujours lui qui est à l'initiative. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Alors encore une fois, faisons taire la crainte, faisons taire le mensonge, faisons taire la honte et approchons-nous avec assurance du trône de sa grâce. Approchons-nous avec assurance. J'étais en train de parler de cette notion de guerre d'adoration, de conflit qui est dans le ciel, qui a toujours été là, donc avec Lucifer, l'astre brillant. En grec, Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. En hébreu, c'est Hallel, l'astre brillant. Hallel, ça vient de Hallel, ça veut dire quelque chose, Hallel. Alléluia, gloire à Dieu. C'était dans l'étymologie même de son nom, en fait. Lucifer qui était en charge de la louange dans les cieux. Les cieux, je vous rappelle qu'on a lu là le psaume 19 qui raconte la gloire de Dieu. C'était lui qui était en charge de ça. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit, en fait, la gloire maintenant, ça ne va pas être à Dieu, mais ça va être à moi. Et c'est comme ça qu'il a été déchu, qu'il a été séparé et qu'il est devenu Satan, Chatan, le père du mensonge, le calomniateur. Et il a emmené des anges avec lui qui sont des démons. Et donc il y a cette guerre, il y a ce combat. Est-ce que vous croyez que c'était juste dans la Bible avant et aujourd'hui c'est tranquille? Je veux nous rappeler dans l'évangile, je crois que c'est dans l'évangile de Marc. Non, c'est dans l'évangile de Luc. On va regarder ensemble. Si vous avez vos Bibles, on va aller lire dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Et on va aller directement au verset 5. L'esprit du mal l'emmène plus haut. En un instant, il montre à Jésus tous les royaumes de la terre et il lui dit « Je vais te donner tout le pouvoir et la richesse de ces royaumes. Oui, je suis le maître de tout cela et je le donne à qui je veux. Donc, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et tout cela sera à toi. » Jésus lui répond « Dans les livres saints, on lit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer. » Et c'est lui seul que tu serviras. Si Satan a osé venir voir Jésus sur cette terre, le Fils de Dieu, et lui dire clairement, prosterne-toi devant moi. Est-ce que vous croyez que nous, on n'est pas des proies, entre guillemets, encore plus faciles ? Vous croyez que son plan, il a changé? Encore une fois, et on l'a chanté depuis ce matin, je crois qu'on est vraiment dans un temps où le chant de l'Église, le chant du peuple de Dieu rappelle qu'il y a une seule personne à qui doit revenir toute la gloire, il y a une seule personne à qui revient toute la louange, il y a une seule personne à qui nos vies sont dédiées, Jésus. Un seul nom, Jésus. Un seul espoir, Jésus. L'espoir pour nos familles, pour nos enfants, Jésus. L'espoir pour ce monde, l'espérance pour ce monde, Jésus. Celui qui guérit, un seul nom, Jésus. Tout le reste, les amis, c'est bien, mais c'est vide en fait, sans lui. Ça n'a pas de sens sans lui. Et voilà, mon but ce matin, c'est de venir nous stimuler, nous rappeler qu'il y a un Père dans le ciel, dont le cœur bat pour ton cœur. Un Dieu qui, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est l'histoire d'un Dieu qui va être en relation avec toute sa création. Et je vais juste terminer par là ce matin. Je n'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu dans l'ordre de mes notes, mais ce n'est pas grave. On est tous conscients que Dieu nous a créés avec un corps. On est tous conscients qu'on a un corps. Moi, le mien, il est fatigué ce matin, Jésus qui tire et tout. J'ai bien conscience que j'ai un corps. Puis on est bien conscient qu'on est fait avec une âme. On peut reprendre le passage de Genèse 1 où il nous est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Là, le mot homme, c'est Adama. C'est l'homme avec un corps. Il le forme de la poussière. Il souffla dans ses narines le souffle de vie. Le mot souffle, là, en hébreu, c'est le mot ruach, qui veut dire esprit. Et le verset, il continue, et l'homme devint une âme vivante. Un corps, un esprit, une âme. Le corps, donc comme je disais, on est tous conscients qu'on a un corps. Est-ce qu'on est conscient qu'on a un esprit? Est-ce qu'on a conscience que notre esprit est appelé à être en relation avec l'Esprit de Dieu, que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. On est tous conscients aussi qu'on a une âme. Là, l'âme, c'est là où siègent nos sentiments, c'est là où siègent nos émotions. Et pour revenir peut-être à notre expression de louange moderne, très souvent, notre louange, elle est assez basée sur nos émotions. C'est pas mauvais en soi, mais il faut qu'on aille plus loin. Dieu est esprit. Et à un moment, notre adoration, elle devient spirituelle, où ça passe au-delà du corps et ça passe au-delà de nos émotions. Mais notre esprit est appelé à être en relation avec l'Esprit de Dieu. C'est dans Tite, dans l'épître Tite 4, je crois que c'est le chapitre 4, où il nous est dit, l'apôtre Paul parle de régénération. Hier, je vous dis que c'était 1 Corinthiens, mais non, c'est dans Tite. Je regardais hier soir. C'est notre esprit est régénéré, il prend conscience qu'il peut être en relation avec l'Esprit de Dieu. Quand Jésus est avec Nicodème, il lui dit, Nicodème lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Et Nicodème dit, mais je ne vais pas retourner dans le ventre de ma mère. Et il lui parle de naître d'eau et d'esprit. Et je crois que là, il y a une clé pour nous, peuple de Dieu, dans notre expression de louange, dans cette expression de cœur à cœur avec Dieu notre Père. Il faut qu'on aille au-delà de nos émotions, au-delà de notre corps, mais qu'on puisse être conscient que Dieu nous a fait avec un esprit et que notre esprit est appelé à être en relation avec l'Esprit de Dieu. Amen. Je ne suis pas en train de vous amener dans un truc chelou, hein, vous inquiétez pas. Hein. Pendant tellement de temps, je pensais à... que l'œuvre du Saint-Esprit, c'était uniquement... Moi, j'ai grandi dans un milieu très charismatique, où l'expression de louange était très charismatique, très... Ça partait dans tous les sens. Et pendant très longtemps, ensuite, c'était un peu compliqué pour moi de revenir à quelque chose d'un peu plus carré, un peu plus... Mais Dieu a fait tout un process en moi, et le Saint-Esprit m'a rappelé qu'il n'était pas accessoire. Et comment est-ce que notre adoration peut être spirituelle? Demandons au Saint-Esprit de nous conduire. Demandons au Saint-Esprit de nous révéler Jésus et de nous conduire ensuite au Père. et que notre adoration ne reste pas juste sur un niveau d'émotion ou un niveau juste avec notre corps, mais qu'on puisse grandir ensemble en tant que communauté passionnée de la présence de Dieu, en esprit. Amen, vous me suivez, vous êtes avec moi ? Ouais. Alors voilà, cette notion de cœur d'adorateur, on a parlé, je vous ai parlé de cette notion de cœur, je vous ai parlé de ce conflit d'adoration, de cette guerre d'adoration, et puis je nous invite à grandir dans cette adoration spirituelle. Si vous êtes OK avec ça, tout simplement, je vais pas chercher à peut-être aller un peu plus loin. On va peut-être se remettre encore ensemble devant Dieu et lui laisser tout simplement la place d'œuvrer encore au milieu de nous, comme il a commencé à le faire tout à l'heure. Et l'équipe, vous pouvez revenir. Puis je veux juste prier. Et vous savez quoi, après, je ne vais pas vous donner de consignes. Je ne vais pas vous dire faites ceci, faites cela. Je n'ai pas forcément à cœur de faire un appel de manière très précise. Mais si ça fait écho en vous, cette notion de cœur, peut-être, ouais, si je suis en train de faire ce que je dis que je n'allais pas faire. Fermons les yeux ensemble, fermons les yeux. Seigneur, nous voici rassemblés ce matin devant toi. Des hommes, des femmes, réunis de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, de toute nation, de toute génération. Réunis sous un seul nom, le nom de Jésus. Celui qui détient tout pouvoir, celui qui détient toute autorité. Et oui, Seigneur, nous voulons être des hommes, des femmes, en toute humilité, qui viennent devant toi et qui se rappellent qu'en tout premier lieu, ils sont tes enfants. Je veux te rappeler en cet instant que tu es aimé de Dieu, que tu es son fils, que tu es sa fille. C'est là en tout premier lieu ton identité. C'est là en tout premier lieu qui est ton identité. Pas dans ce que tu fais, pas dans ce que les autres voient de toi, pensent de toi. Et l'autre caractéristique du cœur, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, dont je ne vous ai pas parlé. Chaque cœur, selon chaque être humain, a un rythme cardiaque différent, selon les différentes activités, selon son rythme de vie. Il y a des cœurs qui se fatiguent plus vite, il y a des cœurs qui tiennent pendant des années et des années. C'est la richesse et la beauté, et des fois aussi le questionnement, mais de Dieu qui tient toutes choses dans ses mains. Il y a ce côté fragile, il y a ce côté vulnérable. Mais est-ce que tu acceptes en cet instant cette fragilité? Est-ce que tu acceptes cet instant d'être dans les mains de Dieu, vulnérable, fragile? Est-ce que tu acceptes en cet instant de t'abandonner à sa présence et à fléchir le genou devant lui en tant que fils, en tant que fille, et à lui redonner à nouveau ta vie entièrement et à te positionner en disant « Je ne servirai pas d'autre Dieu. Je n'aurai pas d'autre Dieu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Je ne me laisserai pas voler ce cœur à cœur avec mon Créateur. Je ne laisserai rien dans ma vie se tenir avec un mensonge me disant que je suis séparé du cœur de Dieu. Rien ne peut te séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir. Rien ne nous sépare de son amour.